Moment de prière et de recueillement pour Berkine. Les Arméniens d'Istanbul célèbrent la Pâque. À presque 17 ans, Berkine est fier de son histoire.
Ma grand-mère, quand elle parlait à la maison, je tendais l'oreille. Ce n'était ni du turc ni du kurde. Pour mon grand-père, c'était pareil. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon arrière-grand-père était un rescapé de 1915.
On ne peut donner que deux choses à ces enfants, des racines et des ailes ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de la Turquie, des États-Unis, de l'Iran, de génocide, d'entrée dans l'histoire et même de photos épinglées au niveau du cœur avec Shadow Javan qui signe Big Daddy, un roman social et politique dans l'Amérique profonde qui met en jeu deux paroles, deux récits, celui d'un mineur condamné à perpétuité pour meurtre et celui de son avocate Manu Farin.
Roman noir avec twist final, roman social avec plongée dans la communauté latino, roman politique avec mineur condamné à perpétuité. Des romans intimes avec bribes persanes, le tout pour un premier roman américain.
À 19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farin. Ce soir, ce sera la journaliste Vanessa Schneider. Et puis 19h35, plateau Reconnaissance avec Laure Marchand, co-auteur d'une BD documentaire, Le fantôme arménien, soit le récit de voyage d'un Français d'origine arménienne en Turquie en quête de parole et de visibilité sur le génocide. Lucille Comeau.
Retour sur les terres du peuple arménien, de l'Anatolie à Marseille en passant par Istanbul, à la recherche d'une histoire enfouie presque sans documents, un défi journalistique.
19h45, la session Culture Monde ce soir, Marima.
Session Cora avec la chanteuse Mariama. Elle sera en direct dans le studio, elle chantera Moments Like These avec Abdoulaye Kouyaté à la Cora, une session programmée par notre réalisateur Thomas Beau.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec la reprise du journal de la culture de Sceaux et Sfez qui s'ouvre sur le son du jour.
Écoutez, il y a un rendez-vous mercredi matin. Mercredi matin, le président de Radio France va présenter au CCE son projet d'entreprise. Donc, je crois qu'il faut attendre ce rendez-vous parce qu'il est important aujourd'hui, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce soit la présidence et la direction qui reprennent le dialogue social avec à la fois les organisations syndicales et les représentants du personnel. Donc aujourd'hui, moi, ce que je pense important, c'est de parler aussi plus généralement, et ça sera l'objectif mercredi matin, du projet d'entreprise, parce que moi, je crois que ce mouvement de grève manifeste aussi le souhait de l'ensemble des salariés de parler du service public. Et pas uniquement du retour à l'équilibre budgétaire. Bien sûr, c'est nécessaire. Mais je crois qu'il y a une crise de sens qui est beaucoup plus profonde que cela.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Il est du jour, il est tout frais du matin. C'était Fleur Pellerin, ministre de la Culture, qui était invitée par Patrick Cohen, dont la matinale était de retour sur France Inter ce matin pour la première fois depuis le début de la grève. 19e jour de grève à Radio France. C'est la plus longue de l'histoire de la maison. Et vous l'entendez, la ministre donc compte sur la réunion de mercredi où Mathieu Gallet doit présenter enfin son projet aux salariés de Radio France pour établir le dialogue. Pas sûr tout à fait que cela fonctionne dans la mesure où une motion de défiance a été votée lors de la dernière assemblée générale contre Mathieu Gallet et qu'après une journée de négociation samedi qui n'a pas été concluante, les syndicats réclament plus que jamais l'intervention d'un médiateur.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour et l'on part au Canada et en Italie. Là aussi, de grandes réformes des entreprises d'audiovisuel public sont en marche. Fleur Pellerin évoquait à l'instant une crise de sens sur ce que doit être le service public. Et bien, c'est un peu ce qui se passe dans ces deux pays où les réformes sont guidées non pas par l'austérité, mais par une volonté profonde de réformer le service public.
Oui, commençons donc par nos amis canadiens. Radio-Canada est en phase, osons le mot, de démantèlement. Le groupe qui rassemble donc une télévision et une radio francophone et qui est très lié financièrement à son alter ego en langue anglaise CBC, eh bien, ce groupe-là, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur de Stephen Harper en 2009, eh bien, sur 11 000 emplois qui existaient dans ce groupe, 3 500 ont été supprimés. Il y en aura 2 500 qui seront en nouveau supprimés d'ici 2019. À terme, le groupe aura perdu la moitié de ses salariés. Ce n'est pas une question d'austérité, car dans le même temps, l'État finance par des crédits d'impôts, notamment les développements des télévisions et des radios privées. En réalité, il s'agit ici d'une volonté politique pour Pierre Maisonneuve. Il est retraité de Radio-Canada. Il est membre de l'association Tous Amis de Radio-Canada.
Le gouvernement conservateur actuel au Canada, il est très influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Canada sont les pays qui donnent le moins per capita en financement pour la radio et la télévision publique dans les pays développés. Il y avait environ récemment encore 34 $ par habitant au Canada pour le financement de la radio et télévision publique. C'est baissé à 29 $. Imaginez-vous, aux États-Unis, c'est environ 4 $. Alors, le modèle américain influence beaucoup le gouvernement conservateur. Et on peut dire qu'il y a toujours eu, en quelque sorte, un conflit. Le premier ministre du Canada a reproché récemment aux gens de Radio-Canada de ne pas aimer les valeurs conservatrices. Il l'a dit dans une radio privée. Le regard que le gouvernement actuel porte sur Radio-Canada est un regard négatif.
En Italie, Matteo Renzi veut lui aussi engager une grande réforme de la RAI.
La RAI, le groupe audiovisuel public italien qui comporte donc trois très grandes chaînes nationales, RAI 1, RAI 2 et RAI 3, deux télé mais aussi de radio, là aussi il y a trois chaînes, et puis une dizaine de chaînes de télévision sur le câble, qui est financée par notamment une redevance de 113 euros par mois. Mais la RAI reste encore aujourd'hui un gros extrêmement...
113 euros par mois ?
Par mois, par an, pardon, excusez-moi, oh là là, je suis fatiguée. Voilà, la RAI qui est donc un
week-end.
Groupe extrêmement influencé par le pouvoir politique italien, puisque le Parlement notamment intervient à tous les niveaux au moment des nominations, et donc qui en même temps ne garantit pas vraiment une réelle spécificité du service public, comme l'explique Stefano Montefiore, il est correspondant en France du Corriere della Sera.
La redevance de la RAI depuis des années est devenue un enjeu politique parce que tous les partis anti-système ont toujours pris la redevance comme le symbole de l'incapacité des partis politiques d'être efficaces. C'est vrai aussi que la RAI se finance soit avec la redevance, soit avec la publicité comme n'importe quelle chaîne commerciale. C'est pas vraiment correct parce que finalement, et là c'est une autre critique importante qu'on fait à la RAI, finalement, le produit final en tant que service public n'est pas tellement différent des chaînes commerciales des Berlusconi. Donc finalement, les gens se demandent pourquoi financer avec la redevance un service qui ne diffère pas des autres chaînes.
Matteo Renzi veut donc engager une réforme pour que la RAI cesse d'incarner la gabegie politique.
Et oui, alors il interviendra donc pour en tout cas baisser la redevance, c'est ce qu'il a proposé. Il a même proposé de la fondre en fait avec la facture d'électricité qu'on paye tous les semestres en Italie. La mesure ne semble pas tout à fait prête puisqu'elle présente des problèmes techniques. Il veut aussi et surtout changer la gouvernance de ce mastodonte qui emploie 13 000 personnes. Stefano Montefiore.
Renzi espère d'abord de rendre un peu moins et impopulaire la redevance, baisser la redevance, améliorer peut-être la qualité. Il y avait un petit débat sur la possibilité de transformer une des trois chaînes principales, une sorte de chaîne culturelle, mais après, disons, laisser tomber. Et surtout, c'est la gouvernance, c'est-à-dire l'espoir d'avoir une société gérée avec des critères d'efficacité, et donc avec une sorte de PDG avec plein pouvoir qui pendant 3 ans puisse vraiment prendre des décisions avec des critères d'efficacité, non pas avec les critères politiques selon les partis politiques de Rome.
Voilà, alors encore faut-il que cela passe en Italie. Évidemment, la droite, et notamment la droite berlusconienne, est fermement opposée à cette réforme. Il s'agit d'un débat politique. Donc, et au Canada, plusieurs associations d'auditeurs et d'artistes réclament, eux, un vrai débat autour de, notamment de Radio-Canada et de ce que doit être le service public lors des prochaines élections, puisque certains membres de l'opposition se sont engagés à stopper cette réforme s'ils étaient élus.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec les islamistes de l'État islamique qui ont diffusé ce week-end une vidéo qui montre leurs soldats à l'œuvre dans la destruction de la cité antique Parthe d'Atra, je vous en avais parlé. Il s'agit d'une vidéo de très haute qualité. Les djihadistes prennent la parole et qualifient l'UNESCO d'entreprise mécréante. Je rappelle que l'UNESCO avait traité cette destruction de crime de guerre. Nous sommes là pour détruire, on va détruire toutes les pièces archéologiques, vos sites, vos idoles, votre patrimoine, où que ce soit. L'UI va gouverner vos pays et régnera sur vos terres.
Une radio pour les réfugiés irakiens est née.
Elle s'appelle Radio Al-Salam, Radio de la Paix. Elle émet donc depuis ce matin, depuis Erbil, la capitale autonome du Kurdistan irakien. Elle est destinée aux quelques 2,5 millions de réfugiés et déplacés qui ont fui l'avancée de l'État islamique.
Le couturier Francesco Smalto s'est éteint samedi à 87 ans.
Surnommé le roi du costume, roi du tailleur, ce Calabrais avait commencé dans la couture à 14 ans. Il a appris notamment le métier auprès du couturier attitré des Kennedy. Il a lancé sa maison en 62 et il s'est spécialisé essentiellement dans les costumes d'hommes. Il avait notamment habillé François Mitterrand ou encore l'équipe de France de football.
La dernière,
c'est une histoire de héros malgré lui ou malgré les autorités américaines, enfin malgré tout le monde. Je parle évidemment toujours encore de l'Américain le plus discret, le plus célèbre, le plus aimé, le plus détesté. J'ai nommé Edward Snowden, qui, je le rappelle pour ceux qui auraient dormi ces 3 dernières années, a donc révélé que la NSA, les services secrets américains, espionnaient massivement ses concitoyens. Il est considéré comme un criminel et un traître dans son pays où il ne peut plus aller, les États-Unis, mais il est considéré comme un héros par certains, même s'il a toujours voulu rester modeste. Sud-Est, et notamment par des artistes, puisque les artistes n'arrêtent pas d'essayer de rendre hommage à notre ami Snowden par tous les moyens possibles. Et justement, trois artistes, ce matin, au petit matin, à l'aube, ont installé un buste monumental en bronze de 4 mètres dans un square à New York, le square de Brooklyn, et ils l'ont installé pas n'importe où, il l'a installé tout en haut d'un mémorial aux héros de la guerre civile américaine, de la Revolutionary War. Donc c'est assez joli quand même le symbole. Il y a eu quelques photos Instagram qui ont été prises et déjà les autorités se sont le pied de guerre pour vraisemblablement démanteler cette belle statue en bronze. C'est pas la première fois qu'il y a une statue de Snowden qui est mise en valeur à New York, puisqu'il y en avait déjà une de 9 pieds de long qui avait été créée par Jim DeCinsino et qui avait été enlevée au bout de 2 jours à l'Union Square Park en octobre, puisque évidemment, il n'avait absolument pas le permis pour la poser là-bas.
Merci Zoé, on se retrouve demain.
Avec grand plaisir, ou pas, on espère, ah oui. On ne sait pas.
Est-ce qu'on peut podcaster ?
On peut podcaster, on peut réécouter, puisque c'est tout ce qu'il vous reste à faire, chers amis.
Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre de la part de nous deux invités ? Non, Laure Marchand, non, j'adore Javan.
Tout va bien, quoi, dans le monde.
Ah oui, bah bravo, vous avez bien écouté. Peut-être une question, d'ailleurs, Manou.
Oui, justement, comment est-ce que, puisqu'on parlait d'actualité, hein, comment est-ce que vous regardez l'accord cadre sur le nucléaire qui vient donc d'être négocié jeudi à Lausanne ?
J'ai fait un papier, j'espère qu'un journal ou une magazine va le prendre. Je suis très sceptique.
Que vous l'étiez déjà, hein, vous aviez déjà signé une tribune en 2013, je crois.
Dans le Figaro.
Oui, et j'avais fait déjà en 2009, en disant ne négociez pas avec le régime iranien. Et pour moi, c'est un pompier pyromane. Et je pense que le régime iranien ne tiendra pas ses paroles. Il l'a déjà montré dans le passé. Et voilà. Et Obama fait preuve d'une très grande naïveté. Peut-être que ça arrange la politique américaine, mais j'en suis presque persuadée que ça va être très mauvais pour l'Europe et pour toute la région de Moyen et Proche-Orient.
Alors potentiellement, si tout se passe bien, ça voudrait évidemment dire qu'il y aurait une relance économique. Et en matière de mœurs, en revanche, est-ce que vous croyez en l'ouverture du réformateur Hassan Rouhani ?
Non.
J'adore Javan.
Non, écoutez, le régime iranien, il a alterné, soi-disant, les présidents modérés, ouais. Conservateurs, mais ils ne sont modérés et conservateurs que par le nom, et puis parce que ça arrangeait la politique internationale et aussi la politique nationale de l'Iran. Donc, on nous avait parlé de pragmatique Rafsanjani, ultra-modéré de Khatami, puis conservateur Ahmadinejad, et maintenant un nouveau réformateur, modéré Rouhani. Donc voilà, tout ça c'était pour s'approcher de la bombe atomique, et aujourd'hui ils sont au seuil nucléaire.
Comment vous êtes lu en Iran ? Est-ce que vous êtes lu d'ailleurs ?
Ah non, pas du tout. Je ne suis pas traduit en persan, moi. Non, non.
Pas du tout ?
Non.
Même sous le manteau ?
Non. Certains de mes ouvrages ont été plagiés. Vous savez, le plagiat maintenant existe partout. Donc certains de mes... même, je ne suis pas celle que je suis, qui traitait de la psychanalyse en grande partie, avaient été plagiés par une psychanalyste iranienne, machin, beau. Moi, je suis pour le fait que les idées circulent, les idées n'appartiennent à personne. Même si on plagie, c'est mieux que quand même... il y a quelques idées qui circulent. Bon.
Laure Marchand, oui ?
Oh ben c'est flatteur, en quelque sorte. Hein.
Oui, toute proportion gardée.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau roman américain avec vous donc, Shador Javan, écrivaine, essayiste, auteur notamment de La Muette ou Comment peut-on être français ou Bas les voiles, qui était un pamphlet contre le port du voile en 2003. Vous signez aujourd'hui un roman, Big Daddy, chez Grasset. C'est l'histoire de Roddy, un jeune ado latino condamné à perpétuité pour un triple meurtre à l'âge de 13 ans. Le roman se passe dans l'Amérique profonde et il se déroule à deux voix. Il y a la voix du jeune délinquant, donc il raconte l'emprise de ce fameux Big Daddy, qui est un gros caïd colombien, pervers narcissique, qui le forme à la violence et puis qui l'entraîne dans l'horreur, notamment dans la torture des obèses. Et puis face à son récit, il y a celui de Nikki Hamilton, une avocate, puis ex-avocate, d'origine iranienne, solitaire, un peu paumée, avec un passé familial très chargé, qui va s'attacher à cet adolescent, chercher à le comprendre et à le faire libérer. Tout le roman oscille entre ces deux prises de parole qui déroulent donc leurs confidences et les confessions respectives. Comment ce dispositif s'est imposé à vous ? Comment vous l'avez choisi ?
Alors, je dirais, la réponse la plus honnête, ce serait « je ne sais pas ». C'est au fur et à mesure, en tâtonnant. Donc, d'ailleurs, le premier chapitre, je l'ai écrit il y a 7 ans de cela. Et entre le premier chapitre et le reste du roman, j'étais dans une espèce de... j'étais totalement perdue. Et entre-temps, j'écris 2 romans. Mmh. J'avais beaucoup de documents, de choses, des notes prises. Je ne savais pas comment continuer la suite. Et la suite m'est venue. Voilà. On ne sait pas d'où nous viennent les idées, mais je dis toujours que l'imagination se nourrit de la réalité. Et puis, voilà.
Vous travaillez selon un plan préétabli ?
Non, pas du tout. Je suis certainement la personne la plus désordonnée que la Terre n'ait jamais portée.
En son sein, comme on dit. Manu Farine.
C'est un dispositif qui semble avoir aussi quelques dettes à l'égard de la psychanalyse. Ce n'est pas la première fois, puisque ça a eu une grande importance dans votre propre parcours. Vous l'avez évoqué à l'instant, notamment dans l'apprentissage de la langue française, puisque c'est arrivé en France en 1994, à l'âge de 25 ans à peu près. Après vos 23 premières années en Iran, où vous avez grandi, et un bref passage en Turquie. Donc quand vous arrivez, vous ne parliez quasiment pas le français et vous avez très vite entamé une psychanalyse. Qu'est-ce que vous en attendiez à ce moment-là ? Parce que j'imagine que la psychanalyse n'est pas forcément quelque chose de très répandu, du moins à l'époque, en Iran.
Non, pas du tout. En fait, puisque je l'ai dit et je l'ai écrit, je le dis, j'ai fait une tentative de suicide très grave. Donc j'étais à l'hôpital psychiatrique et puis lorsque je suis sortie, d'ailleurs il y avait une psychanalyste, un psychiatre iranien qui me demandait, pour me laisser sortir quand même, est-ce que vous avez des projets ? J'ai dit oui, bien sûr, je vais devenir, en persan bien sûr, on parlait, je vais devenir écrivain dans la langue française. Et puis, elle secoue la tête et elle dit « Est-ce que vous avez d'autres projets à court terme ?» Je dis « Oui, je vais apprendre le français, faire des études, faire une psychanalyse. Et est-ce que vous avez d'autres projets plus terre à terre ?» Je dis « Oui, je vais faire des petits boulots pour gagner ma vie. » Et en fait, moi, j'ai appris le français en lisant des romans, en lisant le Robert, en faisant une psychanalyse. Et je me suis entendue dire dans une langue que je ne connaissais pas. Et je pense le fait que j'ai fait une psychanalyse a fait que j'ai un rapport charnel avec la langue française. Et je dis toujours que soit aujourd'hui je n'ai plus de langue maternelle, soit j'ai une langue maternelle dans laquelle j'ai un accent étranger, puisque j'ai toujours un accent en français. Et puis, après 12 ans de psychanalyse, mon écriture ne pouvait prendre corps que dans la langue française, parce que mon inconscient a été restructuré en français.
Vous n'aviez jamais pensé que vous seriez écrivain dans votre propre langue ?
Si, bien sûr, j'ai toujours voulu être écrire et devenir écrivain. Et d'ailleurs, mes amis ne sont absolument pas étonnés, parce qu'ils me disaient, toi, de toute façon, tu serais écrivain, quelle que soit la langue. Donc,
Retour au roman, c'est un roman donc politique, social, Manu le disait tout à l'heure, qui met à jour la situation des mineurs qui sont emprisonnés à perpétuité aux États-Unis, un phénomène sur lequel vous vous êtes longuement penché et documenté aux États-Unis même. C'est un fait divers qui était l'élément déclencheur de ce roman ?
Alors, il y a beaucoup de faits divers aux États-Unis, c'est vrai que j'ai traité de l'incarcération à un âge précoce dans presque tous mes livres. Mmh. D'ailleurs, La Muette est le cas d'une adolescente de 15 ans qui va être exécutée en Iran. C'est une obsession. Et cette fois-ci, ça se passe aux États-Unis. Effectivement, lorsque j'ai appris qu'il y avait cette peine aux États-Unis, une perpétuité définitive, ça veut dire sans aucune possibilité de liberté conditionnelle, et parfois même pour des adolescents qui n'ont pas commis de meurtre. Là, il s'agit d'un triple meurtre. Et bien sûr, j'ai écrit le roman sous une forme de roman à suspense, thriller et tout ça, mais ce n'est ni un roman policier, ni un roman thriller. Pour moi, avant tout, c'est un roman social, politique, et la quête d'une sorte d'amour absolu. Là, vous avez parlé de Nikki Hamilton.
L'avocate.
L'avocate, elle est dans une... fixation, elle a, enfin, enfant, elle a perdu le bonheur qu'elle connaissait, ce bonheur familial à cause des tragédies. Donc, c'était une forme de dire que voilà, nos attachements les plus profonds prennent leurs racines dans les, dans ce qui nous a marqué le plus profondément dans notre enfance.
Et l'incarcération, c'est quelque chose qui vous a marqué, j'imagine, profondément aussi, pour que ça devienne aujourd'hui le thème de vos écrits.
Oui, vous savez, quand il y a eu cette catastrophe historique qu'on a camouflée en révolution iranienne, mais il y a eu des adolescents, des adolescentes exécutées, emprisonnées, torturées. Il y avait même à l'époque, le journal en fait a publié des pardonnez-moi, je suis un peu des noms des adolescents donc exécutés, et notamment j'ai perdu deux de mes très proches amis.
Manou.
Votre personnage d'avocate, Shahrzad Javan, Nikki Hamilton, donc elle est d'origine iranienne par sa mère, et vous écrivez dans le roman. À vrai dire, je n'ai rien d'iranien à part mon prénom. C'est ce que dit donc ce personnage. Et en 2008, dans un article, vous disiez, puis vous l'avez répété à plusieurs reprises, je ne serai jamais française, suivi de, et je n'ai jamais été iranienne. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase, vous qui y êtes née et qui avez passé vos 23 premières années?
Oui, alors ça, je l'avais dit devant, comment s'appelait le ministre de l'immigration et l'identité nationale à l'époque, je ne sais plus. Donc, pour moi, un écrivain n'a pas de nationalité. Un écrivain, puisque on ne peut pas assigner à la résidence l'imagination d'un vrai écrivain. Je dis toujours, comme je n'ai jamais été musulmane, je dis dans mon premier roman, avant qu'on ne me décrète un musulmane, j'étais génétiquement athée. Je suis la fille d'un très grand athée. Donc aujourd'hui, si je dis ce que mon père disait, voilà, il va y avoir fatwa. Lui, il est mort, on ne peut pas décréter de fatwa contre lui, mais contre moi. Donc quand je dis, je ne serai jamais française comme je n'ai jamais été iranienne, c'est au sens de cette identité, ce n'est pas quelque chose acquise. Je ne suis plus celle que j'étais il y a d'un an, celle qui n'avait pas encore écrit ce roman. Et de toute façon, j'ai une histoire, un récit qui n'est pas française, même si je n'ai que la nationalité française. Par ailleurs, je dis, je suis contre le double nationalité, à titre personnel. Je n'ai pas le double nationalité.
Quelle raison ?
Parce que je pense être iranienne est tellement différent qu'être française. On ne peut pas être citoyen d'un pays démocratique et citoyen d'un pays qui n'est pas un pays démocratique. On ne peut pas. Donc, moi, je suis même choquée si on a, je veux le dire, un ministre ou une ministre qui a double nationalité. Ça n'existe pas. Je suis de nationalité française. Je n'ai qu'une seule nationalité. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes écrivent encore écrivaine iranienne. Alors, je ne suis pas iranienne. Mais dans mon être, ça veut dire qu'on ne doit pas être dans l'inquisition identitaire, l'inquisition des sentiments, comme on était autrefois dans l'inquisition religieuse. Au niveau des sentiments, si demain il y a une guerre, alors que je suis absolument contre cet accord, je serais déchirée. Qu'est-ce qu'on a appris des grandes pièces de Racine, de Corneille? Qu'est-ce qu'on a appris de voilà, cette espèce de déchirement quand il y a la guerre entre le pays de naissance et le pays voilà, où on a choisi de vivre? Donc, au niveau identitaire, je ne suis ni iranienne, puisque je ne l'ai jamais été. Vous savez, quand vous vivez dans votre pays, vous, Laurent Goumard, vous ne vous définissez pas ici en France comme un Français. Vous vous définissez comme Laurent Goumard. Donc voilà, en Iran, personne n'était venu me dire que j'étais iranienne. Ici, tout le monde dit que je suis iranienne. Alors, je ne suis pas iranienne, mais c'est vrai que je ne serai jamais française non plus comme une femme française de mon âge, même si j'estime qu'on ne peut pas faire plus que ce que j'ai fait moi pour devenir française. J'écris même un roman, Comment peut-on être français ? De s'emparer de la langue française, d'écrire dans la langue française, inscrire, enregistrer mon histoire, mon récit dans la langue française, refaçonner mon inconscient, mon imagination en français. Mais ma foi, j'ai 25 ans de vie dans laquelle il n'y avait pas un mot de français, et voilà, la France n'existait pas. Donc je ne peux pas nier cela, et je n'ai aucunement envie de nier cela.
Charlotte Javan, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Chador Djaven, identification de ce son, ça on l'aura compris. Mais la raison pour laquelle vous l'avez choisi surtout.
Alors parce qu'en fait, d'abord j'étais très étonnée que vous demandiez un son. Et ça, par excellence, en fait, correspond à ce que peut être un son séduisant. Puisque j'avais entendu, écouté la chanson quand j'avais 9, 10, 11 ans et je parlais pas un mot de français et c'était cette voix forte, puissante, déchirante, ça se voyait que c'était une chanson d'amour et j'avais des copines et des cousines qui étaient amoureuses, qui pleuraient. Donc c'est vraiment le son qui qu'on écoutait tous, c'était une chanson, on ne connaissait rien à la parole, on n'entendait pas la parole, et voilà, c'est...
Manu ?
Juste un petit mot sur ce personnage de Nikki Hamilton, donc cette avocate dans votre roman, qui est d'origine iranienne par sa mère, et Nikki signifie « bonté » en persan, et votre prénom à vous, Chardort, qu'est-ce que ça signifie ?
Shah, vous savez, c'était le roi, Shah, le roi d'Iran, on l'appelle Shah. Et Dort veut dire Dortar, fille, en persan, fille de roi, mais je ne le suis pas. Hein.
Et Javan ?
Javan veut dire jeune.
Donc jeune fille de roi, alors.
Oui, mais je ne le suis pas.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur.
Extérieur.
Chador Djaven et Laure Marchand vous retrouvent dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, ce sera Vanessa Schneider, Manu.
Vanessa Schneider, grand reporter, journaliste politique, romancière, un long passage à Libération, puis au Monde, où elle va couvrir la droite et l'UMP en particulier, avant de glisser du côté du magazine M. Elle vient de co-signer avec Ariane Chemin Le Mauvais Génie chez Fayard, qui est une enquête sur Patrick Buisson. Et je l'avais rencontrée il y a quelques mois, c'était en septembre dernier. Le souvenir politique de votre enfance ?
L'élection de Mitterrand en 81. J'étais dans une famille de gauche, donc c'était une grande fête. On était allés le soir à la Bastille. Et donc j'imaginais que c'était la fête pour tout le monde. Et je suis retournée le lendemain au collège et je me suis aperçue que c'était pas du tout la fête pour tout le monde. Et que j'avais compris que tout le monde ne vivait pas dans le même monde que le mien.
Une figure qui a pu fonctionner comme référence pour vous ?
C'était un grand journaliste de Libération qui s'appelait Gilles Bresson, qui m'a pris sous son aile, qui avait un rapport très ludique à la politique, à l'écriture, et qui m'a appris à regarder ce monde-là comme un théâtre avec des personnages, avec des rebondissements, avec des situations, avec d'observer ça comme une comédie humaine.
Première erreur de journaliste.
À Libé, comme notre rôle, c'était à la fois de taper sur la droite et qu'en plus, on cultivait un ton comme ça, très caustique, très moqueur, qui faisait partie de la culture du journal et c'est la façon dont j'avais appris à écrire. Je pense qu'il y a certains papiers que j'ai faits où le trait était un peu forcé et c'est vrai que moi, j'avais par exemple à cette époque-là le surnom de Madame Tape Dure par les politiques, qui m'embêtait pas outre mesure parce que au moins je revendiquais d'avoir une distance et un regard critique, mais avec le temps, je pense que j'ai adouci mon regard en faisant plus attention. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à modifier avec le temps.
En 20 ans, ce qui a changé dans l'exercice de votre métier ?
L'accélération du temps médiatique et du temps politique. Moi, j'ai commencé à une époque où on allait à l'Assemblée nationale, il y avait quelques journalistes de presse écrite et trois caméras de télévision. on pouvait passer plus de temps à discuter. Maintenant, ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à faire parce que on se retrouve pris dans des meutes de caméras, de téléphones qui filment tout, de blogueurs. Donc, je pense que ça a modifié la façon d'être des politiques qui sont sommés de réagir beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire avant, il y avait un événement politique, l'homme politique pouvait se dire « bon, je vais faire un communiqué dans 5 heures ou dans 6 heures, ou j'en parlerai demain ou après-demain, maintenant c'est plus possible ».
L'homme politique ou la femme politique qui vous aura le plus appris sur votre métier ?
Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, il pose aux journalistes un problème essentiel qui est celui de la distance qu'on doit mettre par rapport aux politiques. C'est-à-dire que eux font leur métier. Quand ils sont en face de nous, leur but est de nous vendre ce qu'ils ont à nous vendre, hein, leurs idées, leurs sauces, leurs stratégies, leurs mensonges, leurs vérités aussi. Et nous, notre rôle, c'est de décrypter tout ce qu'ils ne veulent pas nous dire. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, de par cette espèce d'état de séduction permanente dans laquelle il est avec la presse, nous confronte vraiment à ça, se poser toujours la question de qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me vendre.
L'autre métier que vous auriez pu faire ?
Je sais que je n'aurais jamais pu faire, c'est femme politique.
Vanessa Schneider, merci.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Ça fait écho à votre propre parcours, Laure Marchand ? Ou ça n'a rien à voir, votre métier de journaliste, avec ce qu'a pu vivre Vanessa Schneider ?
C'est assez différent parce que moi, je viens de passer 10 ans en Turquie, à Istanbul. Je viens juste de rentrer en France, à Paris. Mais il est vrai que nous aussi, nous avons vu cette accélération médiatique très, très fortement, même si elle n'est pas aussi handicapante que pour les journalistes politiques à Paris. Mais c'est vrai que tout de suite, l'info sort sur Internet et qu'il faut réagir, il faut réagir immédiatement et que l'analyse vient après. On nous demande de réagir à chaud et pas forcément de prendre le temps d'analyser. Et c'est vrai que c'est dommageable pour l'information.
Le rendez-vous.
Plateau Arménie avec vous, Laure Marchand, vous êtes journaliste. Entre 2004 et 2014, vous étiez correspondante en Turquie pour Le Figaro. Vous publiez aujourd'hui avec le journaliste Guillaume Perrier « Le fantôme arménien » chez Futuropolis. C'est un reportage graphique en collaboration avec le dessinateur Thomas Azuelos en cette année 2015 qui marque le centenaire du génocide arménien, toujours largement nié encore actuellement en Turquie et qui a fait environ 1,5 million de victimes, Lucille Como.
Alors c'est une bande dessinée qui fait suite à un ouvrage que vous avez publié il y a 2 ans chez Actes Sud, ça s'appelait « La Turquie et le fantôme arménien ». C'était un recueil de récits et de reportages sur le génocide. Vous étiez allé dans plusieurs endroits recueillir des témoignages de survivants, des survivants dont certains avaient été turquisés, certains convertis à l'islam pour échapper au massacre, des justes aussi, des membres de la diaspora un peu partout. La bande dessinée, c'est l'histoire de Christian Varoujan Artin, un Français marseillais d'origine arménienne que vous avez suivi. Lui, il décide, après avoir refusé pendant des années de le faire, de se rendre finalement en Turquie, jusque dans le village de son grand-père.
Comment il vous a d'ailleurs expliqué ce refus d'aller en Turquie jusque-là ?
C'est une grande préoccupation, une grande problématique de la diaspora arménienne. Comment retourner en Turquie, sur les terres de ses ancêtres, alors que l'État turc nie toujours le génocide, ni avoir tué leurs grands-parents, leurs ancêtres. Donc ça, c'est vraiment, il y a un refus qui est, pas chez tous, mais longtemps, une grande partie de la diaspora a refusé de retourner en Turquie à cause de ça. Et puis, il y a aussi une peur qui s'est transmise de génération en génération. Ce génocide a été commis il y a bientôt un siècle, mais il est toujours très vif pour les descendants parce qu'il n'a pas été reconnu. Et c'est une particularité de ce génocide.
Est-ce aussi parce qu'il croyait qu'il n'y avait plus d'Arméniens en Turquie à part à Istanbul ? C'est ce qu'il raconte à un moment donné lors d'un déjeuner dans la bande dessinée. Véritablement, il pensait qu'il n'y avait plus d'Arméniens en Turquie.
C'est quelque chose qui était peu su dans la diaspora arménienne et également en Turquie. Officiellement en Turquie, il y a une minorité arménienne qui est connue, qui est à Istanbul. Mais en Anatolie, officiellement, il ne restait plus d'Arméniens. Et ces dernières années, on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait des Arméniens qui avaient été islamisés pendant la Première Guerre mondiale et qui ainsi avaient pu échapper à la mort. Et ces conversions, il y a eu énormément de conversions. Ces personnes qui se sont converties pensaient que ces conversions seraient momentanées, et que voilà, c'est des choses assez naturelles et qu'une fois la guerre passée, les massacres passés, elles pourraient reprendre leur religion d'origine. Mais en fait, l'hostilité de la République turque à l'égard de ces Arméniens a perduré. Donc en fait, un siècle après, pendant un siècle, ces familles sont restées dans le silence. Et on les découvre aujourd'hui.
Shadar Javan, vous avez passé 2 ans en Turquie après avoir quitté l'Iran. Vous avez même appris la langue en 2 ans. Oui. Est-ce que cette question du génocide, c'est quelque chose qui était parvenu jusqu'à vos oreilles quand vous y étiez ?
Oui, dans le milieu intellectuel, oui. Mais sans vraiment reconnaître qu'il s'agissait en fait d'une vraie génocide. Mais vous savez, ça c'était la coutume hein, depuis toujours. Les musulmans ont massacré, tué les gens en les forçant de devenir musulmans, ce qu'ils ont fait pour conquérir le monde. Donc c'est depuis seulement quelques dizaines d'années, décennies. Je veux dire, en Iran, ils l'ont fait, ils ont massacré les Zoroastriens, donc il reste plus du tout, en fait. Et ça c'est comme ça qu'ils ont conquis, je dirais, presque le monde.
Leur marchand ?
Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que ce génocide n'a pas été commis au nom de l'islam, hein, mais non. A été commis par le comité Union et Progrès, qui était un parti, le parti Jeune Turc, un parti nationaliste, qui était un parti laïque, et qui était directement inspiré du positivisme, des idées des Lumières, et du darwinisme social également. Donc l'islam n'est qu'une composante vraiment annexe. Hein. Il faut vraiment se remettre dans le contexte
de l'époque. C'est pas du tout une guerre de religion, en fait.
Non, pas du tout. Hein. Il faut vraiment remettre le contexte de l'époque. Et du coup, c'est vrai qu'un siècle après, on peut avoir une lecture un petit peu différente. Mais ce dont vous commenciez vous aviez parlé, vous parliez des Arméniens islamisés que l'on ignorait et que l'on commence à découvrir aujourd'hui. Il y a une autre catégorie de population que l'on découvre. Ce sont les justes, des Turcs ont sauvé des Arméniens. Bien sûr, on ne le connaissait pas parce que l'État turc ne veut pas en parler. Ça serait reconnaître le génocide, donc bien naturellement. Et parmi ces justes qui ont sauvé des Arméniens, beaucoup l'ont fait justement au nom de la religion. Et certains l'ont payé de leur vie. Certains ont été assassinés justement par ces représentants, par ces gouverneurs qui adhéraient à l'idéologie jeune turque.
C'est ce qui est raconté d'ailleurs dans la bande dessinée. Lucille.
Je reviens sur ce silence qui règne encore dans de nombreuses familles là-bas. Vous vous y êtes heurté, des gens qui veulent vraiment pas en parler, qui veulent par exemple pas que vous citiez leur vrai nom. Est-ce que vous, avec Guillaume Perrier, vous avez mis en place des techniques justement pour vaincre ces obstacles-là ? Comment est-ce que vous leur parliez ? Pour qu'ils vous révèlent des choses.
Oui, c'est vrai que les premiers Arméniens islamisés que nous avons rencontrés, c'était en 2009. Et à l'époque, nous venions juste de découvrir leur existence. Et après, la difficulté était d'en trouver parce que les gens avaient peur. Donc j'ai fini par réussir à trouver une famille. Et c'est via leur cousin, qui était un Arménien officiel, que j'ai pu rentrer en contact avec eux. Mais la condition à l'époque, c'était qu'ils ne... Je ne devais pas demander leur nom et je ne devais pas non plus demander l'adresse à laquelle ils habitaient. Donc bien sûr, j'ai dit oui et 6 ans après, je ne sais toujours pas à qui j'ai parlé. Donc là, il y a six ans, on était au tout début de la révélation sur la scène publique de ces Arméniens cachés.
Il y a très peu de documents hein, et très peu d'images qui viennent illustrer et raconter le génocide arménien. L'idée de faire un roman graphique est née, bien entendu, de cette absence d'images. Comment est-ce que vous avez collaboré avec le dessinateur Thomas Azuelos ? Est-ce que vous lui avez raconté des anecdotes particulières ? Vous lui avez montré des photographies ? Parce qu'il existe quelques rares documents, en fait.
Ah mais Thomas a fait le reportage
oui.
avec nous.
Oui,
Thomas était sur place. Donc en fait, avant de venir, il s'est plongé dans l'histoire et puis dans l'actualité de la Turquie. Il avait déjà une connaissance hein, de la Turquie parce qu'il avait fait les dessins d'un court-métrage qui a eu la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, qui s'appelait « Chaîne d'histoire » et qui racontait l'extermination des chiens de Constantinople, juste avant le génocide, justement. Et donc, il nous a accompagnés et tous les trois, nous avons suivi... le parcours de Varoujane qui revenait pour la première fois sur les terres de son grand-père. Donc il a énormément dessiné tout au long de ce voyage. Il a pris des photos, il a enregistré, donc il a accumulé une somme d'informations pour pouvoir après redessiner. Et puis on a construit le scénario avec lui et il avait tout ce matériel très très riche.
Lucille.
Toujours à propos d'images sur la couverture du livre chez Actes Sud, La Turquie et le fantôme arménien, vous aviez mis un cliché d'un photographe qui s'appelle Antoine Agoudjian, qui est un petit-fils aussi de rescapés qui traque le génocide, qui lui va sur les lieux 100 ans après. Peut-être je vous laisse décrire cette image et nous dire peut-être pourquoi vous l'aviez choisie en particulier.
Alors cette photo représente la ruine d'une basilique arménienne du XIe siècle dans la région du Dersim, dans l'est de la Turquie. Et Antoine faisait le reportage avec Guillaume. Ils étaient dans ces ruines qui sont absolument magnifiques, un petit peu fantomatiques, lorsqu'une vieille dame est passée, coiffée d'un voile blanc des paysannes kurdes, avec une vieille dame très âgée, avec la peau ridée, qui semble ne pas avoir d'âge. Et voilà, cette dame a surgi. Antoine a pris la photo. Et cette photo est la couverture du livre qui est paru chez Actes Sud. Et voilà, cette vieille dame n'a pas parlé. Et puis, quelques temps plus tard, Guillaume est retourné dans cette région et il a appris que cette vieille dame était justement une Arménienne cachée. Donc, c'est vraiment la manifestation de ce fantôme arménien.
Vous avez été correspondante en Turquie pendant 10 ans. Qu'est-ce qui vous avait d'abord poussé là-bas, leur marchand ?
Alors, nous nous sommes installés en Turquie en 2005, donc au début des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, c'est cette actualité de ce pays qui nous a poussé au départ à partir nous installer là-bas. Et ce n'est qu'une fois sur place que nous avons découvert l'importance de cette question arménienne pour la Turquie.
Lucille ?
C'était par quel biais à ce moment-là ? C'est quelqu'un que vous avez rencontré ? C'est une publication ?
Non, c'est en 2005, en fait, c'est... S'il fallait dater la fin du tabou entourant le génocide en Turquie, on pourrait la dater à peu près à cette période. En 2005, une grande conférence a été organisée par des historiens turcs sur le génocide arménien. Donc c'est la première fois vraiment que dans l'espace public, ce génocide était dit. Donc à la fois, on voyait la fin du tabou et on voyait aussi un déchaînement nationaliste. Donc on voyait les résistances de la société, mais également les changements de cette société. Et puis après, il y a eu des écrivains comme Orhan Pamuk, le prix Nobel de littérature, qui a été poursuivi en justice pour avoir reconnu ce génocide. Et puis bien sûr, l'assassinat de Randing, ce journaliste d'origine arménienne, en 2007.
Alors comme à tous nos invités, on vous a demandé aussi un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. C'est une reconstitution de la part de notre réalisateur Thomas Beau. Qu'est-ce qu'on écoute et pourquoi vous l'avez choisi ?
Alors on écoute les bruits du Bosphore avec un appel à la prière lointain, je pense, dans la rumeur de la ville. J'ai choisi ce son parce que nous avons vécu 10 ans à Istanbul. Nous venons juste de rentrer et je pense que nous avons une nostalgie de cet endroit. Notre appartement donnait sur... Notre balcon donnait sur le Bosphore et nous prenions, voilà, très souvent nous étions sur ce balcon à regarder passer les bateaux qui remontaient vers la mer Noire ou qui descendaient vers la Méditerranée. Et en face, nous avions la rive asiatique, donc nous habitions sur la rive européenne, donc à la jonction de deux continents. C'est un endroit absolument magnifique où les couchers de soleil, je pense au...
Je le confirme.
Vous habitiez là-bas aussi ?
Oui, j'habitais enfin sur le Bosphore aussi, mais de l'autre côté.
Voilà. Dernière question. Pour la première fois, un colloque a réuni des historiens turcs, arméniens, européens et américains. C'était entre le 25 et le 28 mars à Paris. Vous y étiez ?
Alors, je n'y étais pas parce que je rentrais juste des États-Unis parce que notre livre La Turquie et le fantôme arménien vient d'être traduit en anglais. Mais je peux vous dire que c'était une conférence qui va faire date hein, sur l'état de la recherche aujourd'hui internationale sur le génocide. Donc les plus grands spécialistes étaient présents et ont fait état de leurs recherches.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on va se quitter en musique. Il y a déjà les accords derrière. Aujourd'hui, en direct, Lucille.
Beaucoup de cordes, session acoustique. Une session programmée ce soir par notre réalisateur Thomas Beau avec la chanteuse Mariama, auteure, compositrice et interprète aux multiples origines. Je les cite, allemande, Sierra Leone, guinéenne, française, tchèque et norvégienne. Elle revient en ce printemps avec un nouvel EP, Moments Like These, où elle reste fidèle à une manière très intimiste, avec un texte, une voix, une guitare, pas d'effet puisque tout est enregistré dans les conditions du live. En acoustique, au plus près des sons, il faut rester simple, résume Mariama. Pour le titre qu'elle va interpréter là, elle est accompagnée par Abdoulaye Kouyaté, virtuose de la kora. La kora, c'est cet instrument traditionnel qu'on joue beaucoup, notamment en Guinée et au Sénégal, entre le luth et la harpe avec beaucoup de cordes. Ils sont tous les deux en direct dans le studio 108 et ils interprètent tout de suite Moments Like These. Mariama, c'est à vous.
For the first sun rays, wait for them to tickle your nose. As you step outside, people you never met feel like friends you've known a long time ago. Invisible hands carry you through the day. You walk like you're walking on clouds. Inaudible voices whisper in your ear. They talk to you about love, sweet love, and it's moments like these. When you catch a glimpse at what is real, oh, and it's moments like these. When you don't pretend, but you really feel, it's moments like these. When you're not strong and you're not weak, oh, it's moments like these. When you can breathe easily, yeah, 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 hey. Until you gotta cry, cry until you gotta laugh. Remember, always remember that you're alive, and forget your fear of love, sweet love, because it's moments like these. When you catch a glimpse at what is real, oh, and it's moments like these. When you don't pretend, but you really, really feel, it's moments like these. When you're not strong and you're not weak, oh, it's moments like these. When you can breathe easily, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. When you catch a glimpse at what is real, oh, and it's moments like these. When you don't pretend, but you really, really feel, it's moments like these. When you're not strong and you're not weak, oh, it's moments like these. When you can breathe easily, so just go on and breathe easily, oh, don't forget to breathe easily, just be yourself and breathe easily.
Merci. Mariama était en direct dans le studio pour la guitare et la voix. Abdoulaye Kouyaté était à la Cora. L'EP s'appelle Moments Like This. Il sort aujourd'hui. Elle sera en concert le 8 avril, c'est mercredi, au Sunset à Paris, le 25 avril à Lille et à nouveau le 27 mai prochain à Paris.
La réponse la plus honnête, ce serait « je ne sais pas ».
Mais c'est vrai que tout de suite, l'info sort sur Internet et il faut agir immédiatement. Et l'analyse vient après, on nous demande de réagir à chaud et pas forcément de prendre le temps d'analyser. Et c'est vrai que c'est dommageable pour l'information.
Merci à nos invités. Shador Javan, Big Daddy, a paru aux éditions Grasset. Laure Marchand, vous êtes la co-éditrice de la co
auteur,
oui, pas éditrice. Du merci, fantôme merci. Arménien qui est apparu aux éditions Futuropolis. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ?
L'argent, ça peut nous faire faire des conneries phénoménales.
Demain, eh bien, mardi, cinéma avec Brigitte Sy pour l'Astragale et Pierre Jolivet pour son film Jamais de la vie. Puis je signale aussi que France Culture et Culture Monde, plus précisément, consacrent cette semaine toutes ses émissions sur la question d'Orient avec demain un programme Turquie et tabou arménien. La désannonce, Manou ?
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Aïssa Toundoy, Elsa Béranger et Manou Farine. Journal de la Culture, Zoé Sfez, à la prise de son, Jacques Azuber et Virginie Cassagne, à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h53 minutes, vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.